Écrit en 2003, Nicola Antonucci, Impression de Chine. La plage de sable doré, plage de Chine. Jève avait décidé de se rendre le lendemain matin à la plage de Chine, que certains surnommaient, certainement par esprit de symétrie, la plage de sable doré aux rochers noirs. La veille de son départ, dans un stand d'une petite brocante, il avait acheté un vieux pot chinois. Il était sculpté dans un large tronc de bambou. Il avait trouvé dans celui-ci deux peignes à cheveux de fille. Aussi, deux éventails chinois construits avec du bois laqué noir et des feuilles de papier décorées d'oiseaux et de fleurs multicolores. Dans le même carton gisait une grotesque marionnette de papier. Elle représentait un soldat en uniforme dont un des bras de carton était cassé. Il avait sur sa tête un chapeau ressemblant à celui de Napoléon. Sa figure était hautaine et son visage dessiné comme balafré par de grands traits d'encre noire. Ces objets semblaient sortir de la glace du temps. Il était impossible de penser qu'ils avaient été déposés là par le machiavélisme des hommes, tellement le fer aurait été insignifiant. Pourquoi et comment avaient-ils pu se trouver ensemble ce jour-là dans les mains de Jève? Ils étaient la mémoire d'une action passée qui l'impliquait lui et d'autres personnages. Quelle histoire vécue pourrait raconter les objets contenus dans ce vieux carton poussiéreux? Jève en avait une idée. Et les fêtes remontaient à plusieurs dizaines d'années en arrière, dans un train vert et crasseux qui longeait un mois d'octobre les rivages de la Méditerranée dans le sud de la France. Ce qui s'était passé ce jour-là pouvait sembler sans importance, totalement sans importance. Voici l'histoire. Jève, alors jeune homme, était assis dans le compartiment crasseux d'un vieux train fatigué. À ses côtés se tenait le corps à moitié affaissé, un militaire. Il avait sur sa tête un képi blanc, légèrement penché en avant, sur son visage qui doucement tanguait au rythme des cahots du train. Il tenait une bouteille de bière dans sa main et son haleine sentait l'alcool frelater. Ses yeux aussi semblaient troublés par l'ivresse et la haine. Jève portait une chemise blanche et avait des yeux très verts. Devant eux se tenaient deux petits enfants, des filles qui étaient accompagnées par leur mère. Elles étaient d'origine asiatique. Leurs yeux étaient bridés, leurs cheveux étaient très noirs et elles parlaient anglais. Le militaire, comme submergé par une profonde vague de haine, lentement s'est redressé. Il a regardé la famille apeurée qui se tenait devant lui avec des yeux haineux. Ensuite, il s'était redressé, avait lentement creusé ses reins et avait pété. La résurgence de la guerre du Vietnam, encore proche, et un racisme profond avaient certainement guidé ce geste. Une odeur nauséabonde avait envahi le compartiment et le militaire, éméché, avait tourné sa tête vers Jève. Leurs regards se sont affrontés et aussi la rictus du soldat s'est opposée au sourire calme de Jève. Les yeux jaunes de l'homme en uniforme avaient alors vrillé comme des billes folles. Ses pupilles dilatées tournaient dans tous les sens, comme une image ironique qui sortirait d'une bande dessinée ou des chiffres fous qui défileraient sur l'écran détraqué d'un ordinateur. Le militaire avait, au bout de quelques instants, rompu le combat immobile. Il s'était levé en titubant et avait disparu pour toujours dans le long couloir de la vie. Les deux enfants, après avoir fait à Jève un large sourire, s'étaient immédiatement endormis. Certainement, la marionnette de carton représentait le militaire et sa fuite expliquait son bras brisé. Les deux éventails en bois, noirs laqués, étaient peut-être la représentation du sourire rassuré des petites filles après le départ du soldat. Les sculptures gravées sur le tronc de bambou étaient intéressantes. Certainement symboliques, peut-être même magiques, elles représentaient deux images. Elles étaient taillées avec finesse en ronde bosse et disposées l'une sur l'autre sur le vieux tronc en bambou verni. La première représentait trois vieux chinois qui examinaient avec attention un plan. En dessous de cette image, huit croissants de lune étaient gravés. La seconde mettait en scène les mêmes trois vieux chinois qui examinaient un damier, certainement un jeu. Ces premiers personnages se tiennent sous de grands arbres, un quatrième homme était présenté. Il discutait avec deux autres personnes qui se tenaient à l'écart, mais tous semblaient attentifs, bien à l'abri, dans une maison avec un toit en tuiles. Il faisait le lien avec les autres. Il informait le monde de ce que le jeu, la science ou la magie pouvaient lui apprendre, permettant à l'homme de construire sa maison. Il représentait certainement la communication, la parole, le verbe ou les chiffres qui instruisent la connaissance. Tout ce petit monde semblait discuter avec ardeur. J'ai à penser que c'était probablement grâce à ces signes rituels qui avaient été gravés par l'homme que ces objets avaient franchi les frontières du temps. Ils se présentaient aujourd'hui à ses yeux, lui qui devait les voir, les comprendre. Ce pot de bambou était-il à l'image d'un vaisseau qui aurait remonté le temps? Ces images gravées étaient-elles l'énergie qui lui permettait de franchir les barrières de l'oubli des hommes? Les émotions ou les valeurs morales que la nature a imprimées dans la vie constituaient-elles l'essence même qui produisait cette énergie? Jusqu'à ce que ces souvenirs oubliés se transforment en matière et qu'alors, en revenant dans notre époque, ils modèlent le présent, sans que les hommes d'aujourd'hui puissent même les remarquer. Pour se rendre en place de Chine, Jeff avait pris un avion sur la carlingue duquel étaient peints des yeux de chat. Il était arrivé à l'aéroport dans un taxi qui s'était embourbé dans un embouteillage de voitures grises. Le comportement du chauffeur était ambigu. Il mélangeait une apparente serviabilité presque obséquieuse à une hypocrisie de fait dans les conseils qu'il prodiguait. Avant le départ, Jeff a eu tout de même le temps de boire un café chaud. Jeff, par sa faute, a failli louper le départ de son avion. Une fois qu'il s'est installé à bord de l'avion, Jeff est tombé sous le charme des hôtesses jaunes, aux yeux fendus et au visage souriant, qui semblaient miauler comme des félines lorsqu'elles parlaient chinois. Le voyage. La jeune fille au nombril nu, ornée d'une perle et portant un pull de cachemire fuchsia. Elle a pris sa pilure contraceptive avec un air effondré en s'asseyant aux côtés de Jeff. Plus tard, leurs respirations se sont mêlées dans une même musique alors qu'ils dormaient à l'unisson. Arrivé à peu près à mi-parcours, Jeff a senti une secousse assez discrète, mais tout de même perceptible. Il s'est dit qu'il venait de traverser la surface du miroir et rentrait dans le monde symétrique de la plage de sable doré de Chine. À son réveil, sur le plateau du petit-déjeuner, le petit pain qui accompagnait le café est arrivé comme partiellement mangé. Jeff paraissait avoir goûté la fille en rêvant. L'avion s'est posé dans l'aéroport d'une ville de là-bas. Jeff, en arrivant, a vu un thé vert chaud. Urbanisme des nombres sacrés. Une partie de la ville d'ici. Elle est composée de deux quartiers où sont construits sur chacun deux hauts-tours et 8 immeubles bas de forme cubique. Jamais ici ils ne verront la beauté d'une coupole, d'une voûte. Si une architecture s'approche de ces formes pures bénies par l'horizon depuis cette cathédrale, ici en place de Chine on lui reprocha son insignifiance. Pour être parfait, ce volume devrait représenter une carapace de tortue. Il serait de base carrée pour la terre où elle repose et de forme courbe pour représenter le ciel. Et pas n'importe quelle courbe, uniquement une de celles que les dieux ont créées et que traîne depuis l'éternité cet animal sacré. Les bâtiments jaillissent fantomatiques, comme surgissant de jardins interstitiels. Cygnes et canards se baignent dans les eaux du bassin où nagent des carpes multicolores parmi des nénuphars aux feuilles géantes. Aussi des fleurs parfumées qui sortent des jardins ombrés. Les toits des bâtiments sont couronnés de symboles dorés, volumes en coupole, cubes, triangles qui renferment des restaurants, musées, cinémas et bibliothèques universelles. Aussi de grands centres informatiques qui sont habillés par 1000 ordinateurs. La ville doit être belle, aussi bien pour le regard des dieux que pour celui des hommes, qui parfois y volent. Les masseurs. L'homme a un ruban blanc qui ceint sa tête. Il ressemble à un ninja. Ceux des films de Hong Kong. Il connaît la profondeur des corps, nerfs, chair, os, articulations, par savoir ancestral et transmis comme un maître en art martial, connaît leurs déplacements dans l'espace, leurs forces ou leurs faiblesses. Il sait délier les nœuds d'énergie que la vie impose. Jeff l'avait croisé longtemps après son massage dans la rue dans laquelle il marchait alors qu'il rentrait à son hôtel. Il était suivi de près par une fille brune, habillée d'un pull blanc tissé avec de la laine torsadée. Avant de se rendre à l'hôtel où se trouvait le centre de machin, Jeff s'est arrêté sur une petite place où les marchands préparaient à même le trottoir une nourriture variée. Ils servaient les plats à leurs clients sur de longues tables de bois. Jeff avait entendu parler des masseurs aveugles. Alors qu'il mangeait une soupe fluide où nageaient dans des légumes aux fortes couleurs, des têtes de poisson aux yeux globuleux et lèvres épaisses, il a vu passer devant lui un nain qui marchait lentement entre les étalages. Il était affublé d'une rouge bosse qui semblait torturer son corps, le faisait ressembler à un arbre séculaire, au tronc rigide et noueux. La masseuse, elle, était de corpulence petite et fine, habillée d'un pull en cachemire et d'un jean serré. Elle riait tout le temps en dodelinant de la tête. Aussi, elle regardait le corps de Jeff avec des yeux noirs. C'était la première fois qu'elle massait le corps d'un homme de cette race. Elle semble le trouver un peu gras. Il ressemblait, dit-elle en riant, à un panda. Jeff savait que cet animal ne foutait rien, mais qu'ici il était sacré. Il avait son importance. Cet animal a une importance structurelle et de cœur dans cette culture lointaine. Il donne une valeur décisionnelle à l'immobilité, au simple sourire, face aux comportements occidentaux où l'action, même parfois inutile, prime sur la sérénité. La fille a commencé le massage par la tête et ensuite a fait lentement le tour du corps de Jeff comme s'il était une île perdue au cœur d'un océan. Ensuite, il s'est installé debout, droite sur son dos, très vertical sur le corps horizontal de Jeff et a massé celui-ci avec ses deux pieds. On suit ses deux genoux, énergie symbolique, comme une danseuse dessinée par Degas, très professionnelle. Lorsqu'à la fin du massage, elle avait frotté ses mains l'une sur l'autre et ensuite touché le corps de Jeff, il avait senti une forte chaleur irradiée, comme une longue vague déferlante la totalité de son corps. Après, Jeff était sorti de la salle de massage et s'était fait laver les cheveux par la fille. Elle lui a ensuite montré ses bras qui étaient recouverts de poils bruns comme les siens. Jeff lui a alors souri d'un air complice et lui a dit « Personne n'est parfait ». Il avait utilisé une réplique connue d'un vieux film qui avait été tourné en noir et blanc et était reparti en taxi dans la nuit. Il avait eu l'impression d'avoir été examiné avec la même attention qu'un étudiant en médecine qui dissèquerait son premier cadavre. La veille, il s'était promené au milieu des marchands à l'étalage, en périphérie d'un marché qui présentait des articles très colorés. Il avait acheté un bouddha sculpté dans une racine de bambou géant, très blond. Il lui a été cédé par une femme contre un peu d'argent. Elle le lui a donné en baissant les yeux. Elle l'avait ensuite dissimulé dans de sacs opaques de plastique épais et blanc. En quittant le marché, Jeff s'est promené au milieu d'une nuée de minuscules croix en argent. Elles jonçaient le sol comme suées par la terre de Chine, autour de marchands au sourire énigmatif. Plus loin, un jeune homme présentait à la vente des vieilles pièces d'argent, dollars chinois du début de siècle. Déjà à cette époque, les hommes d'ici ont souvent l'Occident, y introduisant des signes, des images d'ailleurs. Ils pouvaient venir d'Amérique, d'Angleterre ou d'ailleurs. Ces signes qui sont gravés dans des objets pourtant aussi fonctionnels et aussi intimes que sont les monnaies, pour un peuple, indiquent que, déjà à cette époque, ces hommes établissaient un dialogue, cherchaient une symbiose avec les autres cultures. Ils ne les rejetaient pas, mais plutôt voulaient les assimiler, les absorber. Jeff s'arrête et prend les pièces dans ses mains pour les examiner et en négocier le prix. Un homme de large corpulence et attentif aux cheveux très noirs se tient légèrement en retrait. Soudain, il s'approche, prend une pièce dans sa main, crache dessus, et en la portant à son oreille, écoute la musique que fait la salive au contact du métal, le métal argent. Satisfait, il sourit et la donne à Jeff, qui alors l'achète. L'odeur pestilentielle des pissotières sous la cité interdite. Un cordon de policiers a fait plonger la foule dans le ventre de la ville. Les hommes et femmes qui, alors y errent, sont pris à la gorge par des émanations qui s'infiltrent en eux comme un cortège dragon d'odeurs nauséabondes. C'est l'émanation du monde profond, la pulsion satanique de l'enfer qui s'oppose à la beauté du ciel. et s'accentue lorsque l'enfer s'exhale. En ressortant l'air libre, Jeff a remarqué une fille debout immobile dont le haut de la figure était dissimulé sous un large parapluie. Il ne voyait que sa bouche. Elle était très bien dessinée et surtout sa lèvre inférieure de foie mourlé descendait très bas vers son menton. Derrière la fille, une voiture était stationnée en double file. Tous ses phares étaient allumés et ses sobs clignotaient dans la nuit surgissante. L'engin était de forme rectangulaire et épais. La fille et la voiture exprimaient la matière, le sexe désir, sans aucune spiritualité, sans amour, peut-être même vénal. Tout ici, dans la place de Chine, est bien fait, même les erreurs qui, dans toutes les civilisations, existent, y sont belles et parfaitement exécutées. Le repas. Par petits groupes, les invités entrent dans une salle à la décoration exotique de couleurs rouges et or. Beaucoup de cercles l'ornent. Au cœur de la pièce se trouve une grande table en bois rond et verni, au centre de laquelle tourne un grand plateau de verre opaque légèrement bleuté. Sa lente rotation peut figurer le temps cosmique qui s'écoule et nourrit les hommes, seconde après seconde, en leur présentant à tour de rôle des mets succulents. Ici, les plats sont aussi beaux que bons. Le chef trône au milieu d'un des côtés de la table carrée. Il dévore avec autorité et lui seul un plat servi dans une carapace de tortue dont il avale ainsi des énergies symboliques et archaïques. Devant lui, un bol de soupe fume doucement. Le bol déborde de morceaux de serpent aux écailles luisantes et grises qui nagent dans l'eau grasse. Les invités aussi buvaient avec le chef cette eau trouble et serpentine. Ici, on mange avec délice les parties des animaux qui bougent et qui sont pour l'homme toniques. Souvent, alors, des plats qui sont disposés à la file sur le plateau tournant, un ragoût de pieds de chameau et un délice de pâte de poulet tranchée au poivron et piment rouge mélangé à des crêpes de coque, aussi une langouste crue à la chair blanche et filée, aussi un crabe lourd de pinces. Ils boivent un fleuve de thé vert qui coule dans le verre entrecoupé de brèves coulées de main. La boîte de nuit. Deux félines dansent sur les podiums sous les lumières d'argent. Leurs costumes à paillettes scintillent au rythme d'une musique américaine, image exotique et fascinante. Elles sont toutes les deux affublées de mini-jupes qui laissent voir leurs jambes blanches. La première est une fille longue dont les cheveux sont teints en blond. Elle danse face à la piste où ses clients mécaniquement s'affairent et longuement ses reins se balancent en rythme d'avant en arrière. La seconde est une jeune fille aux cheveux très noirs et au corps jeune et trapu. Elle danse en tournant le dos à la piste, le poignet de sa main droite posée sur son front et seuls ses reins se balancent en rythme d'arrière en avant. La musique s'est rompue un instant et Jav a vu les filles se diriger toutes les deux vers les toilettes comme un attelage symbolique qui serait composé de deux joues. Les yeux de Belle. La fille dansait doucement devant lui. Elle avait un nez long et fin comme un bec d'oiseau, des cheveux noirs et des yeux très clairs aussi. C'était probablement une fille de la montagne aride et proche d'ici. Sarah, il y a de cela bien longtemps, avait vu chevaucher sur un grand cheval noir le ténébreux Franciscan. Une queue de cheveux blancs, assez clairs, jaillissait en cascade du sommet de sa tête. Il avait semblé à Jeff qu'il revivait sa rencontre avec Belle 2 ans avant. Une évidence relationnelle, presque une obligation. Cette Chinoise avait la bouche de l'Empire du Milieu. La lèvre du bas était droite et plate comme la terre, légèrement enflée pourtant, et celle du haut très court et charnue comme le ciel. Elle figurait sur le plan cosmique l'image de la tortue, dont la puissance surgit de la forme, socle carré et dos rond. Jeff a repris le lendemain l'avion et ses hôtesses aux yeux fendus en forme d'amande. Pour accéder à l'aéroport, Jeff a pris un taxi dont le conducteur, un homme au teint basané et aux larges épaules, lui avait déplu. Il avait voulu escroquer Jeff sur le prix de la course. En regardant dans le rétroviseur, il avait remarqué qu'un autre taxi, noir aussi, les suivait à la même vitesse. Il avait un phare unique et la voiture de Jeff aussi circulait avec un seul feu. La vraie voiture chinoise serait-elle composée de 2 carapaces d'acier indépendantes et de seulement 2 feux ? La masse sombre du véhicule les suivait dans les lumières jaunes de la ville, sous un ciel de nuit noire et par instants étoilé. Il se souvenait du chauffeur de taxi blond, au comportement ambigu qu'il avait accompagné à l'aéroport en place de Sampa. L'aller et le retour de ce voyage se ressemblaient, comme s'ils étaient vus à travers le reflet d'un miroir. Au moment où ils allaient atterrir, juste après que l'avion a percé les filandreux nuages blancs, Jeff a regardé par le hublot. Il a alors remarqué un autre avion qui se posait exactement au même moment qu'eux sur une piste parallèle. Ils étaient deux dans ce même mouvement, et cela, Jeff le savait, avait son importance. Salut de la place de Chine. En rentrant à son hôtel, construit face à la plage de sable blanc, Jeff a rangé des pinceaux chinois dans le pot de bambou. Aussi, il a posé à ses côtés le Bouddha en bambou blanc. Fin d'un souvenir.